On est avec Primo Micarelli aujourd'hui en direct de l'Espace des Sciences, juste avant sa conférence qu'il donnera ce soir. Vous êtes habitué maintenant au mardi de l'Espace des Sciences. Primo Micarelli qui est biologiste, mais surtout fondateur du Centre d'études sur les requins en Toscane, qui a fait de nombreuses expéditions scientifiques. Le Centre d'études en Toscane, si je me souviens bien, ça se dirait Centro Studis Quali dans le texte, si vous le voulez bien. Primo Micarelli, vous êtes déjà intervenu sur des questions, notamment en Afrique du Sud, où vous avez beaucoup travaillé, mais aussi vous parliez du grand requin blanc en Méditerranée, puisque c'est bien ça la question. Et si le grand requin blanc disparaissait, qu'est-ce qu'il se passerait? Vous parliez notamment au niveau des attaques que ça date de 1988 en Toscane, la dernière attaque. Donc pour les gens qui ont mon âge, voilà, ça fait bientôt 30 ans. À l'époque, la pêche était autorisée, une mâchoire pouvait valoir jusqu'à 20 000 euros. C'est déjà ça, puis aussi les proies qui diminuent, et puis la pollution, beaucoup de causes. Mais avant d'aborder tout ça, et notamment votre travail de biologiste, et peut-être votre côté militant aussi sur la défense du grand requin blanc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que ce grand requin blanc est si fascinant pour les gens, et surtout fascinant pour vous?
Et moi, je suis de la génération dents de la mer. Donc j'ai eu la première fois, moi j'ai vécu dans une île en Italie, et les films de Spielberg sur les requins, c'est un des films qui m'a énormément marqué, et comme moi presque toute une génération de biologistes marins, et j'ai toujours eu l'envie de mieux connaître la raison de mes peurs, et donc c'est ça en partie qui m'a poussé pour étudier les requins en général, les requins blancs en particulier. Et en plus, j'habitais dans une île, donc pour moi, les contacts avec les mers étaient continus et il fallait répondre à ces questions.
Le requin blanc, c'est un être assez particulier car au sommet de la chaîne alimentaire marine et avec une potentialité à complètement bouleverser, notamment l'équilibre de ce milieu marin. Comment ça se passe justement cette question-là, presque philosophique, à partir du moment où un être peut bouleverser l'écosystème, en tout cas son existence?
Ben oui, en termes scientifiques, bien sûr, l'absence, l'éventuelle absence de requins blancs peut engendrer toute une série de conséquences sur les écosystèmes dans lesquels il est présent. Il faudrait savoir que les requins blancs, il est présent dans plusieurs parties du monde. Il y a 8 hotspots partout dans le monde, mais on le trouve dans des eaux qui vont de 8 à 25 degrés. Donc là où il est présent, il règle la chaîne alimentaire. Un exemple dont je parlerai aussi ce soir à la conférence, c'est celui de l'île de Dyer en Afrique du Sud, où pendant les années 60-80, il y a eu une chasse impitoyable vers les requins blancs. Donc les requins blancs, ils s'étaient éloignés de cette île qui pour eux c'était très important car c'était un lieu de nourriture. Il y a une population très importante des lions de mer. Et ceci a comporté une augmentation des lions de mer qui n'étaient plus sujets à la prédation de requins blancs. Diffusion des maladies, donc des problèmes d'épidémie parmi les lions de mer, une augmentation aussi, un effet aussi sur la pêche, car le nombre important des lions de mer en plus, et d'autres espèces, car les requins blancs, ils se nourrissent pas seulement des lions de mer, mais aussi d'autres importants prédateurs, ou d'autres requins, des dauphins, etc., engendré tous des problèmes sur la pêche, parce qu'il y avait une réduction importante de certains prédateurs, jusqu'à un niveau qu'on ne pouvait pas s'imaginer, c'est-à-dire l'absence de requins blancs avait provoqué une augmentation de l'hormone, qui est un mollusque important pour le contrôle du kelp, qu'il s'agit d'une algue importante en Afrique du Sud pour réduire l'érosion côtière. Eh bien, l'absence de requins blancs a fait de sorte que les abalones, en absence de prédateurs, ils s'augmentaient, les forêts de kelp, ils se réduisaient, et cela engendrait érosion côtière. Donc, toute une série de problèmes suivis à une réduction du prédateur principal, donc notamment des effets sur la pêche, sur l'érosion côtière, sur la transmission des maladies. C'est un nombre très important d'effets. Nous, en Méditerranée, on a les requins blancs. Il est présent aussi en Méditerranée. Malheureusement, le nombre d'animaux présents s'est très, très réduit dans les derniers 30 ans. Donc, les effets, ils seront... Mais c'était une réduction, disons, plus dans les temps. Ce n'était pas quelque chose de très rapide qui s'est produit. Et donc, c'est difficile, comme n'était pas le cas dans le cas de Dyer Island, établir les effets qui pourra avoir une totale disparition, par exemple, du requin blanc en Méditerranée.
En Méditerranée, vous notiez, c'était en 2014 je crois, entre 20-30 encore individus de requins ou de grands requins blancs, mais c'était évalué par rapport aux attaques notamment. Est-ce que vous avez depuis développé davantage d'outils pour en savoir plus sur ce nombre d'individus requins blancs en Méditerranée?
Ce qui est triste à dire que tout en étant un animal de grand intérêt, un animal que nous avons découvert, notre équipe, qui est une des seules équipes européennes qui travaille sur le comportement, eh bien, il y a vraiment très peu d'aide financière pour tout ça. Et il s'agit d'animaux cryptiques, c'est-à-dire difficiles à étudier sur le lieu, donc il faut des moyens très importants. C'est pour cela d'ailleurs que nous allons en Afrique du Sud, où il y a une population importante, où nous pouvons l'étudier de façon à pouvoir donner des réponses, disons, rapides. En Méditerranée, vu le nombre réduit d'animaux présents, vu l'étendue aussi de la Méditerranée, c'est vraiment très difficile de pouvoir suivre son évolution. Parmi les collègues, on est même en doute, c'est dire si en Méditerranée, on peut le considérer extingué. Voilà, c'est ça aussi le problème. Donc, nous avons plusieurs projets pour approfondir la possibilité de marquage de certains animaux en Méditerranée, mais pour cela, il faut des financements que pas facilement on arrive à voir. D'ailleurs, on avait essayé de collaborer avec des collègues français pour un projet, mais faute d'argent, on n'a pas pu continuer. Donc, surtout les études qui sont menées en Méditerranée concernent les fois qu'on peut arriver à les visualiser, les trouver, des informations qu'on reçoit par les pêcheurs et qui nous permet d'avoir une idée approximative de l'état de santé du requin blanc. La Commission européenne s'intéresse un peu plus. Mais encore, les financements ne sont pas suffisants pour approfondir la biologie du requin blanc en Méditerranée comme il faudrait faire.
Donc pour ça, Primo Micarelli, vous allez souvent en Afrique du Sud, on en discutera dans quelques instants, mais vous développez aussi de nouveaux outils, des techniques pour pouvoir les suivre. Et en Afrique du Sud, ça s'y prête, mais quelles sont ces techniques alors ?
Oui, donc pour nous, très important, c'était les aspects sociaux de ces animaux. On n'était pas les premiers à étudier le fait que les requins blancs interagissent entre eux. C'est très intéressant tout ça. C'est des animaux qui évitent la compétition entre eux, c'est-à-dire ils ont un moyen de communiquer qui leur permet de réduire en néant les risques de s'endommager en présence de la ressource trophique. Et tout ça parce qu'ils ont développé des systèmes intraspécifiques de communication sociale. Ce qui est difficile à étudier, c'est pour cela que nous utilisons des drones. Nous avons, soit nous du centre d'études et l'université de Calabrie avec qui on travaille, des drones qui nous permettent de suivre au niveau des surfaces, bien entendu, ces animaux dès qu'ils s'approchent de nous, parce qu'on ne peut pas les suivre sous l'eau, bien entendu. On doit utiliser des systèmes qui ont été vérifiés scientifiquement valables d'observation, c'est-à-dire nous, pour pouvoir les observer, on utilise un système de pâturage qui correspond à une activité naturelle du requin blanc. Le requin blanc se nourrit aussi des animaux morts, donc nous, c'est comme on reproduisait une situation d'un animal qui est mort, qui laisse tomber dans l'eau ses substances et il attire les requins. Et ainsi, nous pouvons l'observer. Nos études donc sont limitées à la phase des surfaces. On ne sait pas ce qu'il arrive en profondeur parce qu'il n'y a pas de moyens suffisamment bien développés pour l'étudier. Mais en surface, grâce aux drones, aux GoPro, à des lasers que nous utilisons, nous sommes en moyen de suivre cet animal et pouvoir voir les interactions, ce qui nous donne aussi des hypothèses intéressantes sur leur comportement social.
Vous êtes, comme on l'a dit, responsable d'expéditions scientifiques en Afrique du Sud, qu'on a cité souvent. Comment ça se passe quand vous allez là-bas? Comment concrètement l'équipe se forme et qu'est-ce qu'elle fait sur ce terrain?
Déjà, quand on part pour l'Afrique du Sud, on ne reste pas très très longtemps parce qu'on a la chance de voir en peu de temps un nombre très important. À chaque campagne, on observe un minimum de 30 et un maximum de 70 animaux par campagne d'études, ce qui pour nous c'est plus qu'est suffisant pour d'évaluation statistique. Mais c'est toute une organisation assez complexe parce que dans les bateaux que nous louons, nous avons différentes équipes qui ont différentes fonctions. Il y a les identificateurs, c'est-à-dire des personnes qui se sont entraînées à reconnaître les animaux et à nous dire dès qu'on les voit, c'est le numéro 1 plutôt que le numéro 10, le numéro 12, ce qui demande capacité d'identification. il y a ceux qui s'occupent de reprendre les nageoires dorsales, fondamentales pour la reconnaissance d'individus qu'on voit tous les ans. On a l'équipe qui se trouve sur la proue, sur la partie antérieure du bateau, pour voir les interactions alimentaires avec des silhouettes qui sont importantes pour nous, pour certains projets, la couleur plutôt que les systèmes de prédation, les interactions, etc. Il y a l'équipe qui va dans les cages pour des observations directement sous l'eau, surtout ce qui nous intéresse, les informations qu'on reçoit, c'est les sexes, qui est important pour pouvoir distinguer mâles et femelles et avoir la sécurité des animaux qu'on a identifiés. Après, on pourra les identifier dans les futurs. Donc, il y a en général 4-5 équipes faites par les staffs du centre d'études, les staffs aussi de l'Université de Calabrie et les étudiants qui nous suivent. On a, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu parmi les 41 étudiants qui ont fait une maîtrise avec nous, une bonne trentaine, ils l'ont fait sous les requins blancs, grâce aux données qu'ils ont pu recueillir avec nous et ce qu'on leur a donné de nos précédentes expériences.
Alors justement, on va faire deux parenthèses, si vous voulez bien, sur ces étudiantes, notamment dernièrement Agnesia Villani ou Valentina Lovat, notamment, sont de très jeunes scientifiques, mais ont été fascinés par cette question-là. Pourquoi et comment est-ce que vous les accueillez dans vos équipes de recherche?
Eh bien, en général, nous, on fait une sélection, c'est-à-dire qu'on reçoit, dès qu'on commence à préparer l'expédition, on reçoit des fiches où les étudiants qui viennent de plusieurs universités italiennes, nous, on a des collaborations pratiquement avec toutes les universités italiennes, ils se présentent, donc par rapport au curriculum, au niveau d'examen qu'ils ont fait, donc d'être plus ou moins proche de la maîtrise, et après, on fait aussi une conversation téléphonique, on établit lesquels peuvent venir avec nous, parce que nous, on explique toujours aux jeunes qu'il ne s'agit pas des voyages vacances, c'est des expéditions scientifiques, il faut se réveiller les matins entre 4 et 5 heures. La mer n'est pas la Méditerranée, qui déjà n'est pas toujours très calme, mais l'océan n'est pas du tout calme, donc j'ai vu des jeunes qui étaient bien forts, qui ont eu du mal à rester toutes les heures en mer pour pouvoir observer les animaux et recueillir les données. Donc on choisit, on les prépare de façon qu'ils sachent qu'on va pour recueillir des données dans un environnement qui n'est pas hostile, bien entendu, mais qui nécessite une certaine prédisposition, préparation pour pouvoir les faire.
Et pour votre part, quand vous voyez ces jeunes-là se fasciner et puis être bons sur le terrain, ça vous fait quoi?
Bien, à chaque fois, la chose qui me plaît le plus, c'est l'image des étudiants à leur première nageoire dorsale. Dès qu'ils s'approchent du premier requin blanc, on voit dans les yeux de ces jeunes vraiment une joie, quelque chose mixte entre peur et joie de voir vraiment les prédateurs par excellence, un des derniers prédateurs de l'océan, et c'est vraiment quelque chose de bien. Nous, on a eu même des étudiants qui sont revenus, quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Bien entendu, il y en a une partie qui sont volontaires parce que nous, on est un organisme privé qui collabore avec les universités, donc nos moyens sont assez réduits. Mais c'est dans les années, c'est formé aussi presque une famille, une véritable famille. Donc les jeunes, ceux qui terminent leurs études, ils continuent de nous suivre ou en participant ou en faisant certaines parties de l'activité, même au retour, parce que nous, quand on retourne, on a pas mal de données à traiter et donc c'est tout un engagement pour traiter tout la molle des données qu'on a accumulées pendant les expéditions.
Alors justement, mais plutôt pour vous, comment ça s'articule cette présence au Centro Studis Quali, le centre d'études des requins, et puis ces expéditions-là, comment ça interagit? Est-ce qu'il y a un endroit où vous préférez être des deux?
Et c'est difficile à dire parce que c'est très bien quand on est dans les laboratoires, au centre d'études. Là aussi, on a des requins parce qu'on ne travaille pas seulement sur les requins blancs, on travaille aussi sur la reproduction des requins méditerranéens, notamment la petite et la grande roussette. En ce moment, il y a une fille qui a fait la maîtrise sur les requins blancs, mais qui est en train de faire une thèse doctorale sur la petite roussette, Chiliorhinus canicula. Donc, c'est 3 ans d'activité très importante. Donc, la partie au sein d'études, c'est très important parce qu'on s'occupe aussi d'autres requins. mais c'est sûr qu'au bout de quelques mois, on pense à réorganiser, répréparer la prochaine expédition. C'est devenu pour moi et les cofondateurs avec moi du centre d'études, les professeurs Speroni de l'Université de la Calabrie, presque une maladie. Pour nous, ça va être difficile un jour. On a encore beaucoup de questions auxquelles répondre, mais ça va être c'est difficile de s'éloigner trop de l'Afrique. L'Afrique nous plaise pour les requins blancs, mais on a besoin d'y retourner chaque année pour retrouver les requins blancs et aussi l'air qu'on y respire.
Primo Mecarelli, dans votre intervention ce soir à l'Espace des Sciences, c'est « Et si le grand requin blanc disparaissait ?» En tout cas, s'il doit un jour disparaître, ce sera certainement à cause de causes très humaines, notamment qui posent des questions sur la gestion des déchets, l'activité humaine, sur la pollution, car si les phoques moines ou les thons ou les espadons disparaissent, donc ce dont ils se nourrissent, c'est à cause de l'humain, alors que c'est le plus grand prédateur des océans. On ne peut pas traiter cette question sans traiter la question de l'anthropocentrisme et tout ce qui va avec. Comment est-ce que vous vous positionnez avec tout ça ?
Tout à fait. Malheureusement, les cas de requins blancs, de Carcharodon carcharias, ce n'est pas comparable, par exemple, à celle de Carcharocles megalodon. C'était un grand requin préhistorique qui pouvait atteindre les 15 mètres et qui la nature, à un certain moment de son histoire, a décidé qu'il devait extinguer. Ce n'est pas le cas du requin blanc, car pour le requin blanc, il y aurait les proies et les moyens de pouvoir survivre tranquillement dans la planète. La question est très compliquée, parce qu'il y a plein de problèmes qui affectent la survie du requin blanc un petit peu partout dans la planète. On a eu quelques réponses positives, la côte ouest des États-Unis où il y avait eu une augmentation du nombre de la population de requins blancs, une stabilisation du requin blanc aussi en Afrique du Sud, mais il y a un nombre d'actions dont est responsable l'homme qui nous font pas être hyper optimistes pour le futur. Nous, à Deer Island, on voit des situations de plus en plus inquiétantes. Il y a même, en ce moment dont je parle, des discussions très vivaces parmi les collègues qui travaillent, les biologistes sud-africains qui travaillent sur le lieu, et qui sont en train de discuter sur la quantité réelle de la population sud-africaine. Il y en a, nous, on était resté à un nombre compris entre 500 et 1000 spécimens. Des autres collègues ils parlent de moins de 500, entre 300 et 400. C'est très difficile de faire aussi ce type d'analyse parce que étudier en termes de démographie un animal cryptique, c'est très difficile. Le problème, c'est qu'en plus de la difficulté de l'étudier, il y a des actions des êtres humains, la pollution. Malheureusement, en Afrique du Sud, on ne pourrait pas y croire, mais nous, dans nos études écotoxicologiques, on a pu remarquer que les requins blancs, ils présentent, par rapport à des études faites il y a même pas 15 ans, en 2005, nous on l'a fait récemment, on a fait des publications en 2012, en 2016, eh bien les requins blancs, ils présentent des niveaux de DDT, PCB, etc., entre 10 et 1000 fois plus de ce qu'il avait avant. Pas seulement, on a eu aussi les cas qu'on va falloir approfondir ultérieurement, d'un animal, d'un jeune mâle d'un mètre 80, donc il naît à 1,20 m, plus ou moins le requin blanc, donc un jeune qui devait avoir entre 2 et 4 ans, qui présentait dans les analyses que nous avons faites de la vitellogénine. La vitellogénine est présente dans les femelles mûres en ovulation. Nous, on a pu le voir seulement dans un mâle. Là, on avait fait les études sur une quinzaine d'échantillons qu'on avait pu prélever avec une technique développée par l'Université de Sienne, avec qui on fait la partie écotoxicologie, un système non-invasif, parce que c'est une petite piqûre, on arrive à récupérer sans que l'animal ne se rende même pas compte, c'est des microgrammes des tissus, et avec ça on arrive à avoir des informations. Là, on doit récupérer, là il y a la bureaucratie sud-africaine qui est un petit peu en retard parce qu'on doit récupérer encore 40 échantillons pour les analyses que l'Université de Sienne doit faire, justement pour valider la situation vitellogénine et d'autres aspects. Donc, situation pollution, c'est assez inquiétant pour la survie de cette espèce, et en plus, il y a des problèmes qui sont assez récents. C'est-à-dire que même si l'Afrique du Sud était le premier pays qui a interdit la chasse, si vous dépassez les eaux côtières sud-africaines, vous allez voir plein de petits points et c'est plein de navires chinois. Et les navires chinois, ils deviennent de plus en plus un problème, pas seulement pour les requins blancs en Afrique du Sud, mais un petit peu partout. Il va falloir aussi que la Chine se rend compte qu'ils sont en train de donner les coups de grâce à... Ils risquent. On ne peut pas dire qu'ils soient, bien entendu, eux, les coupables, etc. Mais ils risquent, s'ils pêchent aussi aux requins dans les eaux non territoriales ou ils passent dans les eaux territoriales, ça peut être encore un gros problème pour les requins blancs. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, en petite mesure, c'est une double action. Recueillir des données, à fournir aux décideurs politiques, de façon qu'ils puissent prendre les décisions plus correctes, mais aussi faire comprendre l'opinion publique que, bien sûr, dans le monde, il y a plein de problèmes très graves. Mais l'absence d'un prédateur très particulier comme les requins blancs, qui a été vu d'une façon très négative très longtemps, pour un long temps, et que maintenant on arrive à identifier avec une autre vision plus réaliste, ça sera un gros dégât, un gros dommage pour l'écosystème, mais même pour l'humanité, avoir l'absence de ces grands prédateurs. C'est vraiment un des derniers grands prédateurs des océans. Et on doit tout faire pour essayer de les protéger. Ce n'est pas une tâche facile, parce que vraiment la situation dans les océans n'est pas, disons, optimale, mais c'est un des buts qu'il faut avoir. Et une des choses que nous, déjà, nous pouvons faire, c'est de faire changer l'image du requin blanc, qui en tout cas reste toujours négatif par la majorité des personnes. Donc des soirées comme celle d'aujourd'hui, elle va donner une contribution à la connaissance de l'animal, de son importance, mais aussi essayer de dédramatiser son image, parce que ce n'est pas si dangereux comme on le pense, nous sommes beaucoup plus dangereux.
Vous disiez on a plus de chances de gagner au loto que de le rencontrer en Méditerranée, ce grand requin blanc, mais c'est quand même assez intéressant ce que vous dites, un scientifique pourrait se contenter de la première option, c'est-à-dire informer, récolter des données, informer les politiques publiques, mais pourtant vous utilisez aussi le mot-clé « save sharks », il y a une dimension militante dans tout ça, à quel moment vous êtes devenu comme ça, est-ce que les scientifiques devraient peut-être plus s'engager pour leur cause ?
Dès qu'on s'est rendu compte qu'on était en train d'étudier quelque chose qui nous échappait. Dans quel sens ? Dans le sens qu'on risque de ne pas pouvoir les montrer à mes enfants, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment qu'on s'engage plus, parce que les requins, c'est une des milliers d'espèces qu'on risque vraiment de perdre. Je dis les requins blancs. Il y a 500 espèces, mais il y en a vraiment plusieurs. Ce n'est pas seulement les requins blancs qui est en danger. Et donc, quand on a vu vraiment la réduction du stock des requins en général et aussi du requin blanc, on s'est dit qu'il faut faire tout ce que nous pouvons. Je répète, les moyens sont très réduits. Ce n'est pas facile de convaincre les décideurs politiques à prendre des décisions. Mais l'humanité est en face de décisions très importantes. Les changements climatiques sont sous les yeux de tout le monde, c'est impossible de nier. Ils contribuent eux-mêmes à des problèmes. En Afrique du Sud, on pense qu'il puisse y avoir aussi des problèmes de changement des courants qui pourraient affecter la nutrition de ces animaux, leur présence, etc. Donc, tout le monde doit faire sa partie. Les scientifiques, en premier lieu, c'est-à-dire... On ne peut plus se contenter d'étudier et garder pour nous les informations, écrire des beaux bouquins, des beaux articles, mais il faut partager avec les gens nos connaissances et essayer de leur faire comprendre que c'est important. Au moins, c'est poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce n'est pas facile, mais il faut vraiment essayer d'aller de quelque manière dans la bonne direction.